بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وها نحن وصلنا مع الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Donc nous sommes toujours dans le cours de l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala concernant les 40 hadiths. Et nous sommes arrivés au 4e hadith. D'après Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, le digne d'être cru, prononça ces paroles: la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'un liquide, d'une semence, puis sous celle d'une adhérence pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair pour une même période. Enfin un ange lui est envoyé, il y insuffle la vie et reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions le concernant, à savoir sa subsistance, son délai de vie, ses actes et son sort, sera-t-il heureux ou malheureux. Par Allah, en dehors duquel il n'est pas de divinité, l'un de vous accomplit des actes comme en font les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le destin inscrit et amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer, le conduisant ainsi au feu. Par contre, l'un de vous accomplit des actes semblables à ceux des gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant de l'enfer. C'est alors que le destin inscrit le devance et il se trouve accomplir des actes dignes des gens du paradis et il entrera au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et rapporté par l'imam Muslim. فَلْنَبْدَى بِتَرْجَمَةِ رَاوِ الْحَدِيثِ. Donc commençons d'abord par une brève biographie du rapporteur du hadith qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Farawi al-hadith huwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa kunyatuhu Abu Abd al-Rahman wa yu'rafu bi ummihi fayuqalu lahu ibn ummi Abd. Donc concernant le rapporteur du hadith, il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa kunya, c'est Abu Abdurrahman. Et il est aussi appelé par sa mère. On l'appelle le fils de Ummu Abd. Lorsqu'on entend dans un hadith Ibn Ummi Abd, il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Aslama radiyallahu anhu bi Makkata wa huwa min as-sabiqin al-awwalin ila al-islam. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. الحديث صححه الألباني في صحيح ابن حبان. Et عبد الله بن مسعود رضي الله عنه est rentré, il a embrassé l'islam à la Mecque et il fait partie des premiers parmi les musulmans qui se sont convertis à l'islam. D'ailleurs, عبد الله بن مسعود dit: je me vois encore alors que j'étais le sixième des musulmans. Et le hadith est authentique. Wa huwa radiyallahu anhu hajara ila al-Habashah thumma ila al-Madinati wa shahida ma'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam al-mashahid kullaha radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud fait partie des compagnons qui ont émigré vers al-Habashah, vers l'Éthiopie. De même, il a émigré vers Médine. Et il a participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tous les événements et à toutes les expéditions. وَلَهُ مَنَاقِبْ كَثِيرَةً. Et ce compagnon radiyallahu anhu a beaucoup de mérites qui sont cités dans les hadiths authentiques. فَمِنْ مَنَاقِبِهِ radiyallahu anhu بِشَارَاتُ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam لَهُ. Parmi les mérites de Abdullah ibn Mas'ud, il y a les bonnes nouvelles, les bonnes annonces du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour Abdullah ibn Mas'ud. قال Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وإذا ابن مسعود يصلي وإذا هو يقرأ سورة النساء فانتهى إلى رأس المئة فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل تعطاه اسأل تعطاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود فلما أصبح غدا إليه أبو بكر رضي الله عنه ليبشره وقال له ما سألت الله سبحانه وتعالى البارحة قال ابن مسعود قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة الخلد ثم جاء عمر فقيل له إن أبا بكر قد سبقك فقال عمر يرحم الله أبا بكر ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله سبحان الله عبد الله بن مسعود dit et on parle des annonces du prophète sallallahu alayhi wa sallam faites à l'égard de عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée avec Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu. Alors que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu faisait la prière et il lisait Sourate An-Nisa. Abdullah ibn Mas'ud était debout en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: demande, tu seras exaucé. Demande, tu seras exaucé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut lire le Coran correctement, tel qu'il a été révélé, qu'il lise selon la lecture de Ibn Ummi Abd, c'est-à-dire de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Alors le lendemain matin, Abu Bakr radiyallahu anhu est directement parti voir Abdullah ibn Mas'ud pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et lui a demandé: lorsque le prophète a dit « demande et ton invocation sera exaucée, qu'as-tu demandé ?» Et Abdullah ibn Mas'ud a dit: j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une foi ferme. Et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un bienfait qui ne se termine jamais. Et j'ai demandé à Allah la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hauts jardins éternels du paradis. Et ensuite, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, est venu après Abu Bakr. Et on lui a dit, oh, Omar, Abu Bakr t'a devancé. Omar a dit, qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr. Jamais je n'ai accompli un bien sans qu'il m'ait devancé. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, radiallahu anhu. Regardez le mérite et la bonne annonce qui a été faite à Abdullah ibn Mas'ud dans ce hadith. Et au passage, regardez le mérite et le souci de Abu Bakr radiallahu anhu et de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Wa min manaqibihi, yani bisharatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'an zir ibn Hubaysh, an ibn Mas'ud, annahu kana yajtani siwakan min al-araq, wa kana daqiq al-saqayn, faja'alat al-rihu takfuhu, fadahika al-qawm minhu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لهما أثقل من الميزان من أحد والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده Et aussi, il a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud qu'il est monté une fois sur un arbre pour arracher une branche de siwak. Et ses jambes, à Abdullah ibn Mas'ud, c'était un homme fin, un homme maigre. Et ses jambes étaient très fines. Alors le vent l'a fait bouger dans tous les sens. Et les gens ont rigolé de ses mollets. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais de quoi riez-vous? Ils ont dit, ya Rasulullah, ô prophète d'Allah, ces mollets sont très fins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah. Il a dit, par Allah, ils sont plus lourds sur la balance que la montagne de Uhud. Regardez les mérites de Abdullah ibn Mas'ud. Wa min manaqibihi thana'u as-sahabati lahu. Qila li Hudhayfata ibn al-Yaman, anbi'na bi rajulin qarib al-hadi was-samti min Rasulillah. Na'khudh minhu. Fa qala Hudhayfatu radiyallahu anhu, ma a'rifu aqrab samtan وهديا ودلا برسول الله من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود والحديث في صحيح ابن حبان صححه الشيخ الألباني. Et parmi les mérites de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, c'est les éloges que les compagnons رضي الله عنه ont fait à son égard. Une fois, حذيفة ibn Yaman a été questionné. On lui a demandé, informe-nous d'une personne ressemblant au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, dans son attitude, dans son allure et dans sa conduite, afin qu'on prenne de lui et qu'on le suit. Alors Hudhayfa ibn Yaman a dit, je ne connais personne qui est plus proche du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'allure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Ibn Ummi Abd. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن مناقبه أنه حفظ علما كثيرا للأمة الإسلامية من رسول الله يقول ابن مسعود نفسه يقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. Parmi les mérites de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, c'est qu'il a retenu beaucoup de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en faire bénéficier la communauté. Et aujourd'hui on tire des enseignements et des leçons de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dit, et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, il dit, par Allah, il n'y a pas une sourate dans le livre d'Allah sans que je sache où ce verset a été révélé. Et il n'y a pas un verset du livre d'Allah qui n'ait été révélé sans que je sache pour qui il a été révélé. Et il dit, Wallah, si je connaissais une personne qui connaissait mieux que moi le livre d'Allah, et chez qui je pourrais aller, alors j'irai la voir. J'irai voir cette personne, radiyallahu anhu. Wa min mawa'idhihi, radiyallahu anhu, قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Et parmi ces paroles, qui sont des paroles en or, la parole suivante, il disait, suivez et n'innovez pas dans la religion, car ce que vous avez reçu vous suffit amplement. Et il disait aussi, الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. Il disait, s'arrêter, se limiter à une sunna, c'est mieux que de fournir des efforts dans une bid'a.
وكان يوصي رضي الله عنه باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
Et Abdullah ibn Mas'ud, lui aussi, conseillait la communauté à suivre les pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
يقول, من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم.
Il disait رضي الله عنه, celui parmi vous qui recherche modèle et exemple, qu'il recherche modèle sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont morts. Car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation. Et il disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs de cette communauté. Ceux dont le cœur était les plus pieux, la science la plus profonde, et ils s'imposaient très peu de cette vie. C'est un peuple, ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour secourir son prophète et pour établir sa religion. Reconnaissez leur mérite et suivez leurs pas, et attachez-vous comme vous le pouvez à leur comportement et à leur religion, car ils étaient sur la voie droite.
وتوفي رضي الله عنه سنة 33 بالمدينة عن 64 سنة بالبقيع. روي عنه 848 حديثا. Et Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه est mort la 33e année de l'Hégire. Et il avait approximativement plus d'une soixantaine d'années. Et il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam 848 hadiths. Radiyallahu anhu.
هذا فيما يتعلق براوي الحديث بعبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن ابن أمي عبد.
Ceci concerne une brève biographie de la vie du rapporteur du hadith qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu.
والآن نتحدث عن منزلة الحديث.
Maintenant nous allons voir ensemble l'importance de ce hadith.
Pourquoi l'imam al-Nawawi a-t-il cité ce hadith dans les 40 hadiths Nawawiyya? Et pourquoi l'a-t-il mis au quatrième rang?
هذا الحديث له أهمية عظيمة إذ فيه بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه وفيه الكلام حول القدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة.
Ce hadith est un hadith très important car il aborde des sujets très importants dans notre religion. Il explique les étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère. De même, ce hadith aborde le sujet du destin qui est le sixième pilier de la foi.
Donc ce hadith est très important. Il décrit les différentes étapes de la vie de l'homme, depuis sa création et son arrivée dans ce bas monde, jusqu'à ce qu'il le quitte pour s'établir définitivement, soit dans la demeure du bonheur qui est le paradis, soit dans la demeure de l'enfer. Et ceci en fonction de ses actes dans cette vie d'ici-bas. Et ce, conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait de lui, et donc de ce qu'il a décrété subhanahu wa ta'ala.
Donc ceci concerne manzilatu al-hadith, concerne l'importance du hadith.
وَالْآنْ نَذْكُرُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
Maintenant nous allons voir les leçons à retenir concernant ce hadith.
Et nous allons citer 11 leçons à retenir, inshallah.
الفائدة الأولى في قوله عبد الله بن مسعود وهو الصادق المصدوق هذا توكيد لقوله أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من أنواع التأكيدات كما أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم إلى آخر الحديث في هذا القول جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام.
La première leçon à retenir de ce hadith concerne la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Lorsqu'il dit dans le hadith أخبرنا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Lorsqu'il dit le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit et il est le véridique, le digne d'être cru. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud qualifie-t-il le prophète sallallahu alayhi wa sallam de véridique, de digne d'être cru, alors que nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle que sous l'effet de la révélation. Et donc, qu'il est le véridique, et donc qu'il est le digne d'être cru. Pourquoi? Les hommes de science disent, ici Abdullah ibn Mas'ud utilise une forme d'insistance, lorsqu'il dit حدثنا رسول الله, le prophète nous a dit, et lorsqu'il dit الصادق المصدوق, le véridique, le digne d'être cru, ceci est une forme d'insistance. Et il a mis cette introduction car les paroles qui vont suivre révèlent du domaine de l'invisible ou révèlent du domaine du ghaib, qu'on ne peut connaître qu'avec la révélation divine. Aussi, ceci montre que la personne peut utiliser des formes d'insistance si nécessaire pour appuyer une information. Et de même que jurer par Allah sans qu'on nous le demande est permis en islam pour appuyer un propos. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ » Ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit par Allah, par celui qui que nul n'est en droit d'être adoré que lui.
الفائدة الثانية أن أطوار خلق الإنسان في بطن أمه أربعة. الأول النطفة أربعون يوما والنطفة هي الماء القليل. الثاني العلقة أربعون يوما والعلقة دم غليظ متجمد. والثالث المضغة أربعون يوما والرابع ما بعد نفخ الروح.
La deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith explique la création de l'homme dans le ventre de sa mère, et que la création de l'homme dans le ventre de sa mère se déroule en quatre étapes, en quatre stades. Premièrement, en un simple liquide, pendant une durée de 40 jours. Deuxièmement, en une adhérence, pendant 40 jours aussi. Troisièmement, un morceau de chair, de la mâchure, pendant 40 jours aussi. Et quatrièmement, toute la période qui vient après que l'âme soit insufflée dans le ventre de la mère et dans le corps de l'embryon.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأطوار في كتابه في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية.
Et ces étapes citées dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud sont citées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans deux versets. Allah azza wa jal dit dans le premier verset: Ô vous les hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'un liquide, puis d'une adhérence, puis d'un morceau de chair formé. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte, un liquide, dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du liquide une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, un morceau de chair. Et de ce morceau de chair, nous avons créé des hommes. Et nous avons revêtu les os de chair, et ensuite nous avons transformé. Et ensuite, nous avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des créateurs. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu disait que l'homme a été créé en sept étapes. Et il citait ce verset.
الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن بعد 120 يوما أو بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح وبذلك يكون إنسانا حيا وأن قبل ذلك فهو ميت ولا يحكم بأنه إنسان.
La troisième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que la vie ou l'insufflation de l'âme, de ruh, dans l'embryon se fait après 120 jours, ou autrement dit, après 4 mois. Et c'est seulement après 4 mois que ce morceau de chair, cet embryon, est considéré comme un être vivant, un être humain vivant. Et avant cette période de 4 mois, il est considéré comme mort, et en aucun cas, il est considéré comme un être humain.
وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّ الْإِنسَانَ لَهُ حَيَاتَانِ وموتتان كما قال تعالى عند الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل والحياة الثانية بعد البعث وهي حياة دائمة مستمرة إلى غير نهاية.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran cite que l'homme a deux vies et l'homme connaît deux morts. Allah azza wa jal dit dans le Coran, et c'est les kuffars qui parlent ici, il dit: Ils diront notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et tu nous as donné la vie deux fois. Qu'est-ce que ces deux vies et qu'est-ce ces deux morts?
La première mort, c'est ce qu'il y a dans le ventre de la mère avant que l'âme ne soit insufflée. La deuxième mort, c'est la mort que nous connaissons tous. Et la première vie, c'est celle après que l'âme soit insufflée dans le ventre de la mère. Et la deuxième vie, c'est la vie après la mort, qui est une vie éternelle, soit au paradis ou soit en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne en l'enfer et qu'il nous fasse rentrer au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
الفائدة الرابعة أن الجنين قبل 4 أشهر لا يكون إنسانا حيا وبناء على ذلك لو سقط قبل تمام 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وأن الجنين بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح وبذلك يكون إنسانا حيا وبناء على ذلك لو سقط بعد 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وبعض أهل العلم يقولون ويعق عنه أي العقيقة.
La quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que l'embryon avant 4 mois n'est pas considéré comme un être humain et n'est pas considéré comme vivant, il est mort. Et sur cette base-là, si la mère venait à perdre ce qu'elle a dans le ventre, alors ce morceau de chair ne doit être ni lavé, ne doit être ni enveloppé d'un linceul, et en aucun cas on doit faire la prière sur lui, parce que ce n'est pas un être vivant. Par contre, après les 4 mois, après que l'âme soit insufflée dans cet embryon devient un être vivant, devient un être humain vivant. Et s'il venait si la mère venait à perdre cet enfant, alors on doit le laver. On doit l'envelopper d'un linceul et on peut faire la prière sur lui. Et certains ulama disent qu'on doit faire ou qu'il est bon de faire sur lui al-aqiqa.
Al-fa'idatu al-khamisa. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة ويرجع في ذلك إلى فتوى أهل العلم.
La cinquième leçon à retenir, c'est que l'avortement est interdit en islam, quelle que soit l'étape du développement de l'embryon, sauf pour une raison religieusement valable, et ce dans des limites très restreintes, tout en soumettant ce cas aux hommes de science.
الفائدة السادسة من هذا الحديث أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
La sixième leçon concernant ce hadith, c'est que parmi les anges, il y a celui qui s'occupe de ce qui va se passer dans le ventre de la mère et dans l'utérus. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Et ensuite, Allah envoie un ange qui insuffle la vie et il reçoit l'ordre d'inscrire quatre choses. La subsistance, le délai de vie, ses actes et est-ce que cette personne sera heureuse ou malheureuse ?»
Al-fa'idatu sabi'a li hadha al-hadith An Allah subhanahu wa ta'ala علم كل شيء جملة وتفصيلا وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ولا يخرج ذلك كله عن مشية الله عز وجل وإرادته ومن ذلك ومما علمه الله ومما كتبه الله ومما لا يخرج عن مشية الله وإرادته رزق الإنسان وأجله وعمله وهل هو شقي أم سعيد وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
La septième leçon à retenir concernant le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, fût-ce le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala connaissait toutes ses créatures avant de les créer. Et il connaissait leur subsistance, le terme de leur vie, leurs actes, leurs paroles, leur obéissance, leur désobéissance. Il connaissait aussi ceux parmi eux qui seront les habitants du paradis, et ceux parmi eux qui seront les habitants de l'enfer. Et de même, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit tout cela dans les tables gardées, al-lawh al-mahfouz. Et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'échappe à sa volonté, ni à sa puissance, ni à sa connaissance, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceci, parmi les choses qui n'échappent pas à la connaissance d'Allah, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la puissance d'Allah azza wa jal, il y a la subsistance, al-rizq, il y a le délai, il y a les actions et les actes que chacun d'entre nous commet. Et il y a aussi, est-ce que la personne sera heureuse ou est-ce que la personne sera malheureuse. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, et il reçoit, l'ange reçoit l'ordre d'écrire quatre choses, son risque, sa subsistance, son délai, ses actes et son sort dans l'au-delà, qu'il soit malheureux ou qu'il soit heureux. Et ceci est la aqida des gens de la sunna et de la jama'a. C'est la aqida sur laquelle était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhu.
Al-fa'idatu thamina anna al-iman bil-qadar la yunafi an yakuna lil-'abd mashiyatun fi af'alihi al-ikhtiyariyah wa qudratun 'alayha. Wa hadha al-iman, al-iman bil-qadar la yamnahu al-'abd hujjatan 'ala tark al-wajibat وفعل المحرمات أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله وندع العمل فقال رسول الله لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
Le huitième point à retenir concernant ce hadith, c'est que la foi au destin, la foi dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait écrit, et que rien n'échappe à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni à sa puissance. Ceci ne contredit pas le fait que l'homme ait pouvoir sur les actes, ne contredit pas que le fait que l'homme a une détermination et une volonté. Cela ne contredit pas que le serviteur ait le libre arbitre, et une volonté à réaliser des choses, et à dire des propos. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses créatures la foi et l'obéissance, et leur a interdit la mécréance et la désobéissance. Ceci est une preuve du libre arbitre du serviteur. Sinon, le fait d'ordonner des ordres, ou le fait de mettre des interdictions en place de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'aurait pas de sens. Et écoutez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah azza wa jal a décrété à chacun de vous sa place au paradis et sa place en enfer. Alors un homme a dit, Ya Rasulullah, devons-nous donc nous résigner à ce qui est écrit et abandonner les actions et les œuvres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, agissez, œuvrez, car toute chose est facilitée pour ce à quoi elle a été destinée. Et de même, dans ce hadith, il y a une autre leçon à retenir, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toute chose. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toute chose ne doit pas être un prétexte pour justifier l'égarement d'une personne, ou les péchés d'une personne. Une personne va faire des péchés, ou sera égarée, et elle nous dira, c'est le destin. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour moi et ce qu'il a décrété pour moi. Car celui qui commet un péché, il le commet de son propre choix. Lorsqu'une personne commet un péché, elle le fait de son propre choix. Elle avait le choix de faire ou pas ce péché. Et en plus de ça, lorsqu'il commet le péché, il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. Car personne ne connaît le destin d'Allah azza wa jal, jusqu'à ce que le destin s'accomplisse. Alors comment une telle personne peut-elle justifier du destin lorsqu'elle accomplit le péché alors que cette chose ne s'est même pas encore produite? C'est pourquoi les hommes de science disent « Il s'ensuit que l'auteur de l'égarement du péché ne peut en aucun cas invoquer le destin avant même qu'il n'ait lieu et en plus personne ne connaît le destin. » De plus, en plus de ça, les hommes de science disent à celui qui commet des péchés et qui se cache derrière le destin, commet des péchés et il se cache derrière le destin disant « Ceci est mon destin, ceci est ce qu'Allah a décrété pour moi. » Les hommes de science lui disent « Pourquoi cette personne n'accomplit-elle pas une bonne action en disant « Ceci est mon destin ?» Et une bonne leçon à retenir aussi dans ce hadith pour bien comprendre ce passage, c'est que dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a parlé que la personne soit heureuse ou malheureuse, donc qu'elle commettra des péchés ou pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du risque, de la subsistance. La subsistance, vous êtes bien d'accord avec moi, elle est aussi décrétée, et elle fait partie du destin. Et pourtant, personne ne reste assis en disant, je vais attendre ma subsistance, puisque ma subsistance est écrite et a été décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui tient un raisonnement semblable n'est pas une personne raisonnable. De la même manière, celui qui dit « les péchés sont inscrits, je peux rien y faire », son raisonnement n'est pas valable. C'est clair ?
Al-fa'idatu at-tasi'a anna al-insana yajibu an yakuna 'ala khawfin wa raja' wa anna 'ala man ahsana an yakhafa su' al-khatimah وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله عز وجل لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولأن من الناس من يعمل بالمعاصي ظهرا طويلا
ثم يمن الله سبحانه وتعالى بالهداية فيهتدي في آخر عمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
Neuvième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que la personne, le musulman, doit être constamment entre la peur et l'espérance, entre la crainte et l'espoir. Parce que celui qui commet une bonne action doit avoir peur de Su'ul Khatima, du mauvais dénouement, de la mauvaise fin. De la même manière que celui qui commet beaucoup de mauvaises actions ne doit jamais désespérer dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui commettent des bonnes actions dans leur vie et ils finissent par une mauvaise fin. Qu'Allah nous en préserve. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, la personne fait des actes des gens du paradis au point qu'entre cette personne et le paradis il y a une coudée. Mais le destin le rattrape et il fait des actes des gens de l'enfer et il rentre en enfer. Et de la même manière aussi que la personne qui commet des péchés, qui commet énormément de péchés, pendant très longtemps, Allah subhanahu wa ta'ala peut guider cette personne à la fin de sa vie. Comme ça a été cité dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et l'homme commet des péchés des gens de l'enfer, au point qu'entre lui et l'enfer, il n'y a qu'une coudée. Et le destin le rattrape, et cette personne commet, accomplit des actes des gens du paradis, et il entrera au paradis. » الفائدة العاشرة لهذا الحديث وهو سؤال نطرحه عليكم إن قال القائل ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يخذل هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. La dixième faïda est en fait une question que l'on pose. Cette question est, si une personne demande, par rapport au hadith cité, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala abandonne-t-il une personne qui accomplit des bonnes actions, qui accomplit les actions des gens du paradis, au point qu'entre elle et le paradis, il n'y a qu'une coudée, et à la fin, il commet des actions des gens de l'enfer, et cette personne entre en enfer. Pourquoi ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala abandonne-t-il cette personne qui a fait beaucoup d'actions ? إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِلَّا فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ ذُو طَوِيَّةٍ خَبِيثَةٍ وَنِيَّةٍ فَاسِدَةٍ حتى يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله وفي هذا إشارة إلى خطر السمعة والرياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا منهما. La réponse à cette question est que cet homme qui accomplit les actions des gens du paradis, il les accomplit selon ce qui paraît aux gens. En apparence, cette personne accomplit les actions des gens du paradis. Mais son fond intérieur, et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le fond intérieur des gens. Le fond intérieur de cette personne-là est corrompu. Et son intention est mauvaise. Et c'est ceci qui fait qu'il aura une mauvaise fin et un mauvais dénouement. Et dans ce hadith-là, dans cette parole-là, il y a aussi une indication au danger de l'ostentation. La personne fait des actes pour se montrer. Et la personne fait des actes pour avoir une réputation. وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ Certains savants rentrent l'ostentation et as-sum'a dans ce hadith-là. وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ الفائدة الأخيرة لهذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم والخوف من سوء الخاتمة. La dernière leçon que je vais citer aujourd'hui concernant ce hadith, c'est que les actes s'évaluent selon leur dénouement et que la personne donc doit avoir peur de la mauvaise fin. La personne doit avoir peur du mauvais dénouement. Parce que ce qui compte, c'est le dénouement de la personne. Et cela ne veut pas dire que le musulman doit négliger le reste de sa vie. Il doit passer sa jeunesse dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Le plus important, c'est le dénouement. Et c'est la fin de la vie. » Qui nous garantit que demain, nous allons encore vivre ?
Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait, les cœurs des hommes sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal les dirige, les retourne comme il veut subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Allahumma musarrif al-quloub, sarrif quloubana ala ta'atik. Ô Allah, toi qui diriges les cœurs, amène nos cœurs vers ton obéissance. Voilà pour ce qui est du hadith de Abdullah ibn Mas'ud.
فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ورواه مسلم.
Donc selon Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, le digne d'être cru, prononça ces paroles. La conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'un liquide, d'une semence. Puis sous la forme d'une adhérence pendant 40 jours. Puis sous la forme d'un morceau de chair pendant 40 jours. Ensuite, un ange lui est envoyé et il lui insuffle la vie. Et reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions. Sa subsistance, son délai de vie, ses actes et son sort. Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Par Allah, en dehors duquel il n'est pas de divinité, l'un de vous accomplit des actes comme en font les gens du paradis au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le destin et amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer et il entrera en enfer. Par contre, l'un d'entre vous accomplira des actes des gens de l'enfer au point qu'il n'y a entre lui et l'enfer qu'une coudée. C'est alors que le destin le devance et il se trouve à accomplir des actes des gens du paradis et il y entrera. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et par l'imam muslim. Allahumma ya musarrif al-quloub, sarrif quloubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.